Laisse-moi te sucer. La femme vampire tira sur le pantalon de Samson, libéra son sexe mou du confinement de son gland et se mit à le sucer de sa superbe bouche. Alors qu'elle se concentrait sur lui, il se prit à observer les lèvres rouges se resserrer sur sa verge. Elle bougeait de haut en bas, l'humidité de sa bouche lui servant de lubrifiant. Elle attrapa ses bourses dans le creux de sa main et les serra, en rythme avec ses succions. Elle avait du talent, cela ne faisait aucun doute. Plongeant ses mains dans les cheveux de la femme, il balança ses hanches d'avant en arrière, cherchant une meilleure friction. Plus fort. Sa requête fut reçue avec enthousiasme, le son des aspirations de la belle emplissant la pièce faiblement éclairée. D'un regard, il laissa ses yeux balayer le corps féminin à peine vêtu, des courbes appétissantes, de belles fesses et un joli minois. Tout ce qu'il pouvait désirer chez une partenaire sexuelle. Enthousiaste à l'idée de lui faire une fellation, elle avalerait probablement aussi ce qu'il appréciait tout particulièrement. Mais ni la forte succion à laquelle elle s'adonnait, ni la sensation de cette langue émoustillante courant de haut en bas sur sa verge ne produisait d'effet. Aucune érection ne semblait en vue. C'était peine perdue. Rien ne bougeait. La tête de la femme vampire s'agitait d'avant en arrière, ses longs cheveux bruns frôlant la peau nue de Samson, se mêlant à ses poils pubiens. Mais le corps de ce dernier n'était pas là. C'était comme si elle suçait quelqu'un d'autre que lui. Samson la repoussa finalement, humilié et frustré. Si les vampires avaient pu rougir d'embarras, son visage aurait été aussi écarlate que les lèvres de sa partenaire. Heureusement, le rougissement était réservé aux humains. Son sexe s'avérant inutile, il le replaça en un temps éclair dans son pantalon et ferma sa braguette. Plus rapidement encore se défit-il de son homologue féminin, son seul espoir étant qu'elle n'apprît jamais son identité. Une bonne chose qu'il se trouva dans une ville étrangère et non de retour à San Francisco, où il était connu de tous. Une semaine après cet incident embarrassant, son ami Amaury lui fit une suggestion. « Essaye juste pour voir Samson, » insista-t-il. « Tu peux vraiment faire confiance au gars. Il ne pipera mot de l'histoire à personne. » Son vieil ami ne pouvait être sérieux. « Un psy ? Tu veux que j'aille voir un psy ? Il m'a beaucoup aidé dans le passé. Et qu'est-ce que tu as à y perdre ? Sa dignité. Sa fierté. Si tu me le conseilles, je peux essayer. » Et c'est ainsi qu'il céda. En désespoir de cause, il ne le juge pas sur ses apparences. Le lieu prêtait à rire. Lorsque Samson entra pour la première fois dans le sous-sol sombre où le psychiatre officiait, il voulut faire marche arrière et s'enfuir. Mais la réceptionniste l'avait déjà repéré. Se tenant droite et affichant un sourire mielleux, elle fit ressortir sa poitrine. Cool, un psy travaillant dans un donjon et affublé d'une Barbie en guise de garde. Monsieur Woodford. Entrez, je vous prie. Le docteur Drake vous attend, l'invita-t-elle de sa voix au perché. À peine entré dans le bureau de Drake, Samson sut qu'il avait commis une erreur. En lieu et place d'un divan se tenait un cercueil dont l'un des côtés en bois avait été retiré afin qu'une personne vivante pût s'y allonger confortablement, comme s'il se fût agi d'une méridienne. Le gars devait être un halluciné. Aucun vampire moderne digne de ce nom n'aurait voulu être vu dans un cercueil. Les vampires de San Francisco succombaient à la tendance et s'adaptaient au style de vie des humains. Les cercueils étaient has-been, tandis que les matelas tempurpédiques étaient à la mode. L'homme rachitique fit le tour de son bureau et tendit la main à Samson, en guise de bienvenue. « Si vous croyez que je vais m'allonger dans le cercueil, je vous conseille d'y réfléchir à deux fois, » aboya Samson. « Je vois que nous avons du pain sur la planche. » Le médecin parut rester de marbre face à la remarque quelque peu brutale de son patient. Il désigna un fauteuil, lequel semblait confortable, et Samson s'y assit à contre-cœur. Le docteur Drake se laissa tomber dans le fauteuil d'en face. L'espace de quelques minutes, Samson bougea nerveusement, les mains cramponnées au bras du fauteuil, tandis que le professionnel l'étudiait du regard. « On pourrait commencer ? Je crois que je vous paye à l'heure. » Tôt dans la vie, Samson avait appris qu'être offensif payait davantage que d'être sur la défensive. « Nous avons commencé à la minute même où vous êtes entré, mais ça, je suis sûr que vous le savez. » Le sourire du docteur Drake était tout aussi réservé que sa voix. Samson plissa les yeux, essayant de passer outre cette réprimande implicite. « En effet. Depuis quand êtes-vous confronté à ces accès de colère ?» Les mots utilisés par le professionnel n'étaient pas ceux auxquels il s'était attendu. Il pensait éventuellement entendre une question du genre « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Mais il n'imaginait pas être confronté à cet assaut direct sur sa psyché déjà bien abîmée.
« He did ?»
Avant d'accepter de prendre ce rendez-vous, Samson aurait dû demander davantage d'informations à Amaury concernant les méthodes du médecin. « Des accès de colère ? Je n'ai aucun accès de colère. Je suis ici pour… Le problème c'est que… mon problème à avoir avec… » Bon sang, depuis quand ne pouvait-il plus prononcer le mot « sexe » sans se sentir nerveux ? Il n'avait jamais eu de problème auparavant pour s'exprimer sur des questions d'ordre sexuel. Son vocabulaire incluait un large choix de mots sexuellement explicites qu'il n'avait aucune difficulté à laisser jaillir de sa bouche quand nécessaire. Le médecin hocha la tête, comme s'il savait quelque chose que Samson ignorait. Vous pensez qu'il s'agit d'un problème d'ordre sexuel? Intéressant. L'homme pouvait-il lire dans les pensées? Samson savait que certains vampires avaient des pouvoirs supplémentaires. Lui-même possédait une mémoire photographique. Il savait que d'autres pouvaient voir le futur ou lire dans les pensées, mais il était dans l'incapacité d'estimer la fréquence de ses pouvoirs. Il avait besoin de savoir s'il était désavantagé en présence de cet homme. Hors de question de travailler avec quelqu'un qui pourrait lire dans ses pensées comme dans un livre ouvert, alors qu'il n'avait aucune envie d'être lu. « Lisez-vous dans les pensées ?» Drake secoua la tête. « Non. Mais votre problème n'est pas si rare. C'est plutôt facile de le deviner. Vous montrez des signes de colère extrême et de frustration. » Il se racla la gorge et se pencha en avant avec vivacité. « Monsieur Woodford, je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes à la tête de l'une des entreprises les plus prospères du monde des vampires, pour ne pas dire la plus prospère. Vous êtes immensément riche, et faites-moi confiance, cela n'influencera en rien le montant vous tarifez. » « Bien sûr que non, » interrompit Samson. Le charlatan lui ferait payer ce qu'il pensait que son patient était disposé à débourser. Ce ne serait pas la première fois. Samson avait l'habitude de voir les gens essayer d'augmenter leur prix quand il savait qu'il avait les moyens. Mais il n'essayait en général qu'une fois. On ne l'escroquait pas sans en assumer les conséquences. Et dans le même temps, on ne vous a pas vu en société depuis un moment, alors que votre place est là-bas, à flirter avec de belles femmes. Je suppose que votre rupture d'avec Ilona Armstead a quelque chose à voir avec ça. Je ne suis pas ici pour parler d'elle. Samson laissa échapper un soupir. Il refusait de prononcer jusqu'à son nom. Elle ne tenait plus aucune place dans sa vie, plus maintenant. Et le simple fait de la mentionner lui démangeait les canines, avides d'une violente morsure. En faisant craquer ses doigts, il se demanda si le son pouvait être identique à celui du cou de la femme, vampire, si celui-ci venait à se briser. Ce ne serait que pure musique à ses oreilles. Peut-être pas d'elle, mais de ce qu'elle a fait. Il ne peut y avoir qu'une raison à cela. Et nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Donc maintenant la question est, allez-vous me faire confiance afin que je vous aide? Les yeux bleus de Drake ponctuèrent sa remarque. À faire quoi? Samson décida de poursuivre dans le déni. Cela avait marché jusqu'à présent. Mettez cette colère de côté. Le médecin était aussi insistant que Samson était têtu. Je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un accès de colère. Un sourire narquois retroussa les lèvres du médecin. Oh moi, je crois bien que si. Quoi qu'elle vous ait fait, cela vous a mis dans une telle colère que vous vous êtes bloqué sur le plan sexuel. Comme si vous ne vouliez plus vous rendre de nouveau vulnérable. Je ne suis pas vulnérable. Je ne l'ai jamais été. Pas depuis que je suis un vampire. La vulnérabilité était la dernière chose que Samson voulait ressentir. Pour lui, c'était synonyme de fragilité. Si le médecin ne se montrait pas plus prudent dans ses accusations, le mécontentement de Samson se ferait rapidement sentir. Un combat physique soulagerait peut-être ses frustrations. Pas au sens propre du mot. Nous sommes parfaitement conscients de votre force et de votre pouvoir. Mais c'est de vos émotions dont je parle. Nous en avons tous. Nous nous débattons tous avec elles. Certains plus que d'autres. Croyez-moi, mon agenda déborde de rendez-vous pris par nos semblables qui ont besoin d'aide pour faire face à leurs émotions. Le psy le regarda. Non, Samson ne pouvait permettre à Drake de devenir si proche. Les émotions étaient quelque chose de dangereux. Elles pouvaient détruire un homme. Il s'extirpa de son fauteuil. Je ne crois pas que ça va fonctionner. L'étau se resserrant dans sa poitrine témoignait de l'effet des mots de Drake sur lui, même s'il n'était pas prêt à le reconnaître. Même pas à lui-même. Le médecin se leva. Depuis que nous avons commencé à nous adapter, continua Drake, résolu, mes consultations médicales ont quadruplé. L'adaptation à la vie humaine a perturbé beaucoup d'entre nous. Nous devons à présent faire face à des problèmes sentimentaux que nous avions gardés enfouis des siècles durant. Littéralement. Vous n'êtes pas seul. Je peux vous aider. Samson secoua la tête. Personne ne pouvait l'aider. Il devait s'en sortir par lui-même. Envoyez-moi votre facture. Au revoir, doc. Il sortit avec fracas. Le médecin avait touché un point sensible. De toute façon, le sexe était surestimé. C'était du moins ce dont il tentait de se convaincre. Certaines nuits, il croyait en ses mensonges, mais cela ne durait jamais. La vérité était qu'il aimait avoir des relations sexuelles. Beaucoup. Mais cela ne semblait pas fonctionner avec les femmes vampires. Quels que fussent ses efforts, il ne pouvait avoir d'érection. Il n'avait jamais entendu parler qu'une telle chose fût arrivée à d'autres vampires. De prime abord, la virilité sexuelle faisait partie intégrante de ces derniers. L'impuissance était un concept étranger au monde des vampires. Seuls les humains devenaient impuissants. Si la nouvelle venait à se propager, ils perdraient le respect de tous ses pairs. Cela était inacceptable. Il finit donc par abdiquer, et, un mois plus tard, prit un autre rendez-vous dans l'espoir que le charlatan pût faire quelque chose pour lui. Samson cligna des yeux et effaça les souvenirs de ses 9 derniers mois. Ce soir, c'était son anniversaire. Il essaierait de s'amuser. Il enjamba son fauteuil bergère à oreille afin d'atteindre le minibar. Ses mouvements étaient fluides et bien que minces, son corps était grand et musclé. Il se servit un verre de son groupe sanguin préféré et le vida d'un trait, comme un humain l'aurait fait avec un shot de tequila, le sel et le citron en moins. L'épais liquide investit sa gorge et étancha sa soif, émoussant ainsi sa faim d'autres plaisirs. Bien, aucun autre ne serait satisfait ce soir-là. Tout comme les 270 nuits précédentes. Non pas qu'il les eût comptées. Seule sa soif de sang avait été apaisée. Ses autres besoins corporels, temporairement contenus, demeureraient inassouvis. Parfois, Samson nourrissait le désir d'être saoul et de tout oublier. Mais malheureusement, être un vampire signifiait qu'il ne pouvait boire comme les humains. L'alcool n'avait aucun effet sur son corps. Pourtant, que n'aurait-il pas donné pour un semblant d'engourdissement à cet instant? Il avait expressément demandé à ses amis de ne pas lui offrir de cadeaux ni de préparer de fête. Bien sûr, il savait que tout cela serait vain, et ce n'était maintenant plus qu'une question de temps avant qu'ils ne fussent à sa porte. Comme des barbares maraudeurs, ils envahiraient sa maison, descendraient en raid sa réserve secrète de boissons de qualité, composée principalement de O négatifs, et lui feraient perdre son temps en lui racontant des histoires qu'il avait entendues une centaine de fois. Il avait eu droit à une fête surprise lorsqu'il avait atteint le cap des 200 ans, et ce ne serait pas différent aujourd'hui, alors qu'il célébrait son 237e anniversaire, avec plus ou moins la même distribution au casting. Anticipant l'inévitable intrusion dans sa vie privée, il avait enfilé un pantalon noir, assez chic, et un pull à col roulé gris foncé. Hormis sa chevalière, il ne portait pas de bijoux. La sonnerie du téléphone déchira le silence de la maison. Il regarda l'horloge au mur et vit qu'il était presque 9 heures. Exactement comme il l'avait prévu, les gars étaient en route. « Oui. Joyeux anniversaire, mon gars. Ça va à mort ?»« Mauvais choix de mots, vraiment. Qu'est-ce que tu nous fais, Ricky ?» Malgré son héritage irlandais, celui-ci avait adopté de nombreuses expressions californiennes et passait désormais davantage pour un surfeur plutôt que pour l'Irlandais qu'il était en réalité. « Je voulais juste te souhaiter un bon anniversaire et voir ce que tu faisais ce soir. » La raison pour laquelle Ricky continuait à faire semblant, ça, Samson l'ignorait complètement. N'avait-il donc pas compris que sa fête d'anniversaire surprise était déjà démasquée? Samson alla droit au but. « Quand est-ce que tout le monde arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? À quelle heure allez-vous me surprendre avec une fête d'anniversaire, les gars? Comment tu l'as su? Bon, pas grave. Les gars voulaient être certains que tu étais là. Alors ne sors pas de chez toi. Et si notre autre surprise arrive avant nous, garde-le. Pas encore. Samson aurait dû s'en douter. Il retint sa colère. Quand est-ce que vous comprendrez que je ne suis pas intéressé par les stripteaseuses? Je ne l'ai jamais été et ne le serai jamais. Ricky rigola. Oui, oui. Mais celle-là, elle est spéciale. Ce n'est pas une simple stripteaseuse. Elle offre quelques extras. Les bonus auraient-ils un quelconque effet sur lui? Samson en doutait. Je crois qu'elle pourra faire quelque chose pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Elle est bonne alors, donne-lui sa chance, ok? C'est pour ton bien. Tu ne peux pas continuer comme ça. Oli a dit que... Samson l'arrêta. Trêve de plaisanterie pour ce soir. Tu l'as dit à Oli. T'es con ou quoi? C'est la plus grosse commère de tout le milieu. Je m'étais confié à toi. Comment t'as pu faire ça? Ses narines se dilatèrent et ses yeux se rétrécirent. Avec ses canines, soudainement proéminentes dans sa bouche, il aurait pu effrayer un champion de lutte jusqu'au mardi suivant. Mais Ricky n'était pas un lutteur et avait rarement peur. Il n'aurait même pas été effrayé jusqu'au lundi. « Fais gaffe à la façon dont tu parles de ma copine, Samson. Ce n'est pas une commère. En plus, c'est elle qui a suggéré la stripteaseuse. C'est une de ses amies. Parfait. Une amie de Holly. Cela ne pouvait clairement que fonctionner. Samson était toujours en train de fulminer, mais il était trop tard pour tout annuler. Bien. Il raccrocha vivement le téléphone, sans laisser une chance à Ricky de s'expliquer davantage. Bien. Maintenant qu'Oli était au courant de son petit problème, bientôt tout le milieu de San Francisco le saurait. Il serait la risée de chaque fête, la cible de chaque blague. De combien de temps Oli aurait-elle besoin pour propager l'information? Un jour, une heure, cinq minutes. Combien de temps avant que ne démarrassent les ricanements dans son dos? Pourquoi Samson n'achetait-il pas tout simplement lui-même une page de publicité dans le SF Vampire Chronicle pour lui faciliter la tâche? Samson Woodford, le jeune célibataire débonnaire, ne peut pas la lever. Les yeux de Delilah Sheridan lui faisaient mal, mais elle continuait à scanner les rangées de transactions en cherchant quelque chose qui ne se serait pas trouvé à la bonne place. Frottant son cou endolori, elle aurait tout donné pour un massage ou au moins faire trempette pendant 15 minutes dans une baignoire, mais ni l'un ni l'autre n'aurait lieu ce soir. Café ? La voix de John retentit derrière elle. Elle repoussa une mèche de ses longs cheveux noirs derrière son oreille. « Non merci. Je veux pouvoir dormir ce soir. J'ai eu des insomnies ces dernières nuits. Je suis probablement encore à l'heure de New York. » Son regard resta fixé sur l'écran de l'ordinateur. La nuit précédente, malgré le confortable matelas, elle avait à peine dormi. Et le peu d'heures durant lesquelles elle avait succombé au sommeil, elle avait été perturbée par des rêves qui n'avaient aucun sens. Le grand bureau spacieux était presque désert, et ils étaient les deux derniers. John Reardon était, pour la branche de San Francisco, le chef comptable de la compagnie nationale pour laquelle Delilah travaillait en tant qu'audite. « Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est le fait de ne pas dormir dans votre propre lit, c'est ça ?» John semblait sympathique. « Ils ne m'ont pas envoyé à l'hôtel et m'ont prêté un appartement de la société.
Était...
Au moins, de cette manière, je ne suis pas dérangé par le service d'étage. Certes, elle était logée dans un confortable appartement qui appartenait à la société, mais qu'est-ce que ça changeait si, de toute façon, elle n'arrivait pas à dormir? Avant son voyage à San Francisco, elle n'avait jamais vu de problème d'insomnie. Au contraire, elle était connue pour être capable de s'endormir n'importe où et n'importe quand, dès qu'elle posait la tête sur un oreiller. Un oreiller ou autre chose d'ailleurs. Delilah se frotta les yeux, puis regarda sa montre. Il était 9 heures passées. Elle se sentait presque coupable de travailler si longtemps. John avait insisté pour rester tant qu'elle serait là. Il ne voulait pas la laisser seule dans les bureaux. Elle pensait qu'il ne faisait pas confiance aux audites qui furetaient ça et là. Et selon elle, il avait bien raison. Non pas qu'elle appelât cela « fureter », puisqu'elle disposait de toutes les autorisations dont elle avait besoin. En fait, elle avait des instructions précises. Elle n'était pas là uniquement en tant qu'audite, mais aussi pour enquêter sur des irrégularités. Delilah était certaine que John n'était pas au courant de sa seconde fonction. On lui avait dit qu'elle n'était qu'un de ces audites que le siège envoyait de temps en temps. « Je suis désolé, John. Je suis sûr que vous aimeriez rentrer chez vous, maintenant. » Elle se retourna pour le regarder. Assis sur le bord de l'un des bureaux, le comptable porta sa tasse de café à ses lèvres. Son costume gris ne lui allait pas, et le col de sa chemise semblait effiloché. Il était plutôt grand et physiquement pas mal pour un comptable. Ennuyeux et terne, mais pas laid. Il n'appréciait probablement pas le fait de devoir rester si tard au bureau. De toute façon, elle n'en pouvait plus, alors peut-être était-il temps de s'arrêter pour ce soir-là, même si elle passerait certainement la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, pour une raison ou une autre. Prête ? Une lueur de soulagement apparut dans les yeux de John lorsqu'elle hocha la tête. Il n'eut besoin que de 2 secondes pour se glisser dans sa veste et attraper son cartable. Il était indéniablement pressé de partir. Elle ne pouvait lui en vouloir. Il avait une famille qui l'attendait. Alors qu'elle, pourquoi rentrait-elle à la maison? Ce n'était même pas sa maison. Non pas que sa maison eût été plus accueillante que l'appartement de la société. Personne ne l'y attendait. Pas d'homme, peu d'amis, pas même un chat ou un chien. De retour à New York, une fois cette mission terminée, elle sortirait et aurait des rendez-vous galants. Tels étaient ses projets. Des projets excellents qu'elle établissait lors de chacune de ses missions en dehors de la ville et qu'elle abandonnait, aussitôt rentrée chez elle. Mais cette fois-ci, elle avait bien l'intention de s'y tenir. Vraiment. Cependant, pour le moment, tout ce qu'elle voulait se résumait à acheter un plat à emporter et à aller se coucher. John fut assez gentil pour lui indiquer Chinatown, où elle trouverait de quoi s'approvisionner avant de retrouver l'appartement. Même si elle s'était déjà rendue dans le quartier, son sens de l'orientation était bien moins développé que sa capacité à travailler avec les chiffres. Et de jour, elle parvenait généralement à se débrouiller, mais dans le noir, retrouver son chemin devenait vite cause perdue. Une bruine ayant commencé à tomber, Delilah ne pouvait traîner dehors trop longtemps. Elle s'engouffra dans le premier restaurant chinois qu'elle trouva. L'endroit était presque vide. La femme à l'entrée tenta de lui indiquer une table, mais Delilah fit signe de la main que c'était inutile. « Juste à emporter, s'il vous plaît. » L'hôtesse lui tendit un menu. Delilah le parcourut rapidement, en essayant de ne pas laisser ses doigts s'attarder trop longtemps sur la collante couverture en plastique. La carte offrait un éventail bien trop vaste de choix. De combien de façons différentes pouvait-on cuisiner du bœuf? Bœuf aux pousses de bambou, bœuf aux champignons, bœuf aux épices. C'en était assez. Elle jouerait la sécurité. « Je vais prendre le bœuf mongol, avec du riz brun, s'il vous plaît. » « C'est 10 minutes pour le riz brun. » La chinoise était aimable comme une porte de prison et tout aussi belle. Si elle pensait qu'avec ce regard, Delilah changerait d'avis et opterait pour du riz blanc, elle se mettait le doigt dans l'œil. « Ça ira, j'attendrai. » Delilah s'enfonça dans l'une des chaises en plastique rouge près de la porte. Ce voyage d'affaires était son premier à San Francisco. Travaillant pour son propre compte, elle se contentait, en général, d'opérer des missions sur la côte Est. Elle la quittait toutefois rarement. Les vérifications périodiques des statistiques effectuées par le bureau mère avaient révélé de mauvais ratios au sein de la branche de San Francisco. Il avait donc été décidé de faire appel à quelqu'un qui n'avait jamais eu de contact antérieur avec l'équipe de la côte Ouest. C'est ainsi qu'une personne extérieure à la société avait été embauchée. Démarche intelligente. Les audits étaient susceptibles de se rapprocher du personnel qu'ils contrôlaient. Un changement régulier de ces derniers était donc généralement une bonne idée. Si quelqu'un était en mesure de trouver d'où venait le problème, c'était Delilah. Elle était spécialisée dans la juricomptabilité. Certes, ce n'était pas aussi excitant que le travail de la police, mais c'était probablement ce qui s'en approchait le plus dans le monde de la comptabilité, si toutefois une telle chose était possible. Un oxymore pour certains, mais pas pour elle. De plus, elle vivait très bien de ce statut de consultant indépendant. L'enquête ne devait pas présenter trop de difficultés en soi. Certains ratios entre les actifs et les moins-values ressortaient des graphiques et suggéraient soit l'incompétence d'une personne, soit de mauvaises intentions de la part d'un employé envers la société. Comment, elle ne le savait pas encore, mais elle le découvrirait rapidement. Delilah était fatiguée et savait qu'elle avait besoin d'une bonne nuit de sommeil, mais elle craignait aussi d'aller se coucher. Certains de ses anciens cauchemars étaient revenus, de nouveau s'y était greffé. Elle n'en avait pas eu depuis quelques mois, mais, dès son arrivée à San Francisco, quelques jours auparavant, ses mauvais rêves étaient réapparus. En général, c'était toujours les mêmes. La vieille ferme française dans laquelle ils avaient vécu 20 ans plus tôt, quand son père avait accepté une mission de 2 ans à l'étranger en tant que professeur associé. Les champs de lavande entourant la propriété. Le berceau. Le silence. Puis, le visage de ses parents. Les larmes sur le visage de sa mère. La douleur. Mais cette fois, les rêves s'étaient mêlés à d'autres, plus difficilement compréhensibles. La maison victorienne se distinguait à peine à travers la pluie battante. De la lumière jaillissait d'une des fenêtres. Le reste était plongé dans le noir. Elle courait de plus en plus vite. Vers la maison, pour se protéger. N'osant regarder derrière elle. Il était toujours là, à la suivre. Les mains agrippées à ses épaules. Puis soudain, elle écrasait ses poings contre une lourde porte en bois. Quelque chose cédait. Elle trébuchait et tombait. Dans la chaleur, la douceur, la sécurité. À la maison. Le bœuf mongol et le riz brun. La voix de la femme déchira le souvenir de son rêve. Delaila paya et prit la nourriture. Elle s'arrêta net à la porte. Mince. Il avait commencé à pleuvoir pour de bon. Or, elle avait laissé son parapluie à l'appartement, pensant qu'elle n'en aurait pas besoin de la journée. De plus, au lieu de choisir son trench, Delaila avait juste enfilé une veste légère, ce qui s'avérait à présent être un bien mauvais choix. Tout le monde lui avait dit combien le temps à San Francisco pouvait être imprévisible, et à présent, elle s'en rendait compte par elle-même. Le bulletin météo n'avait pas prédit de pluie jusqu'au week-end. Pouvait-elle porter plainte contre le météorologue? Probablement pas. Delaila n'avait d'autre choix que de braver la pluie. Elle savait qu'elle n'était pas loin de l'appartement, seulement à trois pâtés de maison. En longeant les immeubles, elle commença à courir le long du trottoir, tourna dans la rue suivante, puis encore une fois au prochain pâté. L'appartement ne devait plus être loin à présent. Elle regarda autour d'elle, mais sous cette pluie battante, elle ne reconnaissait rien. L'appartement se trouvait-il encore plus loin? Ses vêtements étaient déjà trempés, et elle devrait se jeter sous la douche pour se réchauffer. Où diable se trouvait-elle donc? Elle tourna au coin d'une autre rue et se retrouva dans une ruelle. L'endroit ne lui semblait pas du tout familier, mais ce n'était pas son plus gros problème, pas plus que cette pluie incessante. Non. Son plus gros problème, c'était cet homme qui se dirigeait vers elle. Même si elle ne pouvait le dévisager correctement, elle était prête à parier sa pension de retraite qu'il n'était pas là pour lui prêter un parapluie. Son imposante silhouette se reflétait derrière lui grâce au faible éclairage d'un réverbère. La froideur de son apparence transperça Delaila, tandis qu'une légère lueur provenant d'une fenêtre éclaira son profil gauche. La cicatrice plissant sa peau n'inspirait pas confiance. Delaila se retourna vers l'endroit d'où elle venait, mais avant qu'elle ne pût faire deux pas, une main s'abattit sur son épaule, la propulsant en arrière. Le soudain impact lui fit perdre l'équilibre. Elle glissa sur le trottoir mouillé, ses jambes se dérobant sous elle. Son dîner se répandit sur le sol, alors qu'elle se débattait pour garder son équilibre et tenter de rester debout. De sa main, l'homme lui agrippa plus fortement l'épaule. Elle cria en essayant de s'échapper et tomba sur le trottoir dans le même temps. Il se baissa pour l'aider à se relever et à ce moment, Delaila retourna la tête d'un coup sec. Pour la première fois, elle put nettement voir son visage, assez pour pouvoir l'identifier si besoin était. Il était blanc, la quarantaine. La violence et l'intention de se défouler sur elle se lisaient sur son visage. Delaila ne pouvait permettre à son agresseur de l'entraîner dans un coin sombre. La règle numéro 1 en stage de survie était de ne jamais laisser l'assaillant déplacer sa victime dans un autre endroit. Elle devait le repousser ici, où elle avait une chance d'attirer l'attention d'un passant. Autant rêver. Avec cette pluie, personne ne mettrait le nez dehors, pas même un chien. Après avoir relâché la prise sur son épaule, l'homme la releva en la saisissant par le col de sa veste. Rapidement, Delaila tendit les bras en arrière et s'extirpa de cette dernière, abandonnant le vêtement désormais vide entre les mains de l'agresseur. À présent, elle avait une chance de le battre. Elle l'avait surpris et avait quelques secondes d'avance sur lui. Avoir couru le sprint à l'université s'avéra utile, bien que le sol glissant n'aida pas plus que les talons hauts de ses chaussures. Un de ces jours, la vanité la tuerait. À grande foulée, Delaila courut vers la rue voisine, ses jambes maigres mais musclées, repoussant le sol avec une véhémence assez surprenante pour son petit corps. L'homme n'était pas loin derrière elle. Et il était plus rapide. Elle devait courir de toutes ses forces. Sa respiration s'accéléra, alors que ses poumons demandaient plus d'oxygène. Scannant la rue, elle repéra plusieurs maisons victoriennes de l'autre côté. Tout était plongé dans le noir, sauf une. La lumière allumée à travers les fenêtres de la pièce de devant lui sembla étrangement familière. C'était sa chance, probablement la seule. Ne ralentissant pas une seule seconde, elle traversa la rue étroite, escalada les quelques marches de la vieille demeure et tambourina à la porte. « Au secours! Aidez-moi !» Désespérée, elle regarda derrière elle tout en continuant à frapper des poings. Son poursuivant se trouvait à moins d'un demi-pâté de maison, et alors qu'il se rapprochait, Delaila voyait son visage ravagé par la colère. S'il l'atteignait, il libérerait son ire sur elle, et elle n'aurait nulle part où courir.